les filles, ça va ?
Bonjour.
Salut Amina.
Alors, avec moi, aujourd'hui, pas une, pas deux, pas trois, mais quatre artistes incroyables. Camilla, Siam, Rizlen et Sarah. Alors, on va faire un petit tour de table, chacune va se présenter, puis après, ben, on va commencer. On va commencer par toi, Camilla.
Alors, je m'appelle Camilla Otmani, j'ai 30 ans, je suis consultante en stratégie de communication. Et je suis également passionnée de danse orientale.
Donc, pas de démo, hein, vu qu'on est à la radio. Je suis désolée.
Dommage pour vous.
Ouais, vous ratez quelque chose.
À mon tour, alors bonjour, moi c'est Siam Koukeb, je suis artiste peintre, j'ai un parcours artistique de longue date, farfelu, et puis je suis passionnée en fait de la culture arabe, berbère et africaine.
Magnifique. Rizlen.
Hello, moi c'est Rizlen. Je ne sais pas comment me décrire.
Bah, ce qui te vient à l'esprit, hein, parce que c'est vrai que quand il y a plusieurs casquettes...
Moi, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est que je suis artiste, peintre, et je me déclare comme ça que depuis peu, donc c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, et puis je suis aussi entrepreneur.
Magnifique.
Je récupère le micro. Et enfin, Sarah, de la chaîne YouTube et du compte Dear Arabic Novel. Donc moi, j'écris, je lis tout ce qui touche autour du monde, de l'artistique du monde arabe. Donc je crée aussi du contenu autour de ça, parce que c'est ma passion et parce que j'adore ça.
Magnifique. Et justement, est-ce que chacune, j'aime bien ce que tu as dit, Rizlen, peut se définir comme une artiste ? Parce que même si vous avez toutes des domaines plus ou moins différents, mais qui se rejoignent hein, pour le coup, parce que voilà, la danse, la peinture, la littérature, voilà.
Moi, j'ai toujours des difficultés à me définir comme artiste parce que je me dis que tant que je ne vivrai pas de cet art-là, est-ce que je peux vraiment dire que je suis artiste ? Et être artiste, ça prend du temps, c'est de la pratique, c'est de l'investissement aussi. Donc, j'ai toujours un peu de scrupule à dire que je suis artiste. D'ailleurs, quand je me suis présentée, j'ai dit que j'étais passionnée de danse orientale. Je n'ai pas dit que j'étais danseuse orientale. Mais
pourtant, tu en fais quand même depuis plusieurs années.
J'en fais depuis plusieurs années. De manière générale, je danse depuis que j'ai 10 ans. Mais tu vois, c'est la même chose, j'écris beaucoup aussi,
oui.
Mais je me définis pas comme écrivain. Donc on peut peut-être dire que je suis artiste dans l'âme, et le jour où j'aurai sauté le pas, si ça arrive, où je vivrai de mon art, celui-là ou un autre, hein, parce que comme j'ai dit, je suis aussi passionnée de littérature et donc j'écris aussi beaucoup. Ben, peut-être que je me définirais comme artiste, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ont sauté le pas, il y en a autour de cette table ici, qui peuvent... à mon sens, légitimement, se définir comme artiste. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui. Alors, moi, c'est vrai que peut-être c'est plus facile du fait que j'ai le statut, mais que maintenant, c'est ce avec quoi je gagne ma vie. Mais je me suis toujours définie comme artiste. En fait, les autres m'ont définie comme artiste.
Ouais.
C'est plutôt ça, dans mon cas. Mais depuis longtemps, je pense que... Je ne sais pas si c'est ma personnalité ou mon mode de vie, ou comme, voilà, on en discutait un peu... le fait que j'ai grandi dans un milieu artistique qui fait que, mais on m'a toujours définie comme artiste. Donc du coup, pour moi, ça n'a jamais été une difficulté de dire je suis artiste. Et je sais que ça paraît un peu bizarre. Et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde aussi.
Et tu sais ce qu'on va faire aussi, Siam, de toute façon, ça je couperai au montage, mais en fait, il ne faut pas hésiter, rapproche le micro toi, et tu sais, tu peux le monter, il faut bien genre vraiment parler, en évitant un peu les bruits, mais parce que du coup, ça module... Tu vois, ça module mieux alors que...
Tu sais, quand t'es loin comme ça, regarde. En fait, juste à l'écran...
Ouais, le son.
T'as vu ? Et après, du coup, ça veut dire que chaque partie où tu vas parler, je vais devoir faire du montage.
Je te donne du taf.
Ouais, mais en soi, après, ça va s'entendre.
J'ai
pas...
compris.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Mais moi, je trouve que cette discussion est intéressante et j'ai eu aussi du mal à me définir comme étant artiste. Avant de me définir, c'est aussi d'autres personnes qui m'ont définie comme ça. Et puis, je trouve que c'est réduit... Enfin, moi, j'ai trouvé... que c'était réducteur de se dire qu'un artiste c'est que quelqu'un qui est rémunéré parce qu'il vit de sa passion. Ça prive aussi beaucoup d'âme d'artiste d'être artiste, puisqu'on n'a pas tous le privilège de pouvoir vivre de son art, et c'est aussi une étape hyper importante, je pense. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal, mais c'était hyper difficile de me définir autrement.
Parce que ça veut dire qu'il faut trouver plein d'autres mots, il faut trouver des tournures de phrases, il faut dire ok, mais je fais de la peinture, mais pas tous les jours, mais en même temps, des fois. Ouais, mais tu fais quoi en fait? T'es artiste ou pas? Genre, tu fatigues les gens, des fois. Genre, les gens disent dis que t'es artiste, c'est beaucoup plus facile.
Et puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup de discussions de personnes qui disent est-ce qu'on peut être artiste sans avoir fait d'école d'art, est-ce qu'on peut se dire artiste si on justifie pas de tant d'heures de pratique par semaine, et c'est dommage en fait parce qu'en fait tu te prives de si tu te après quand tu te dis artiste, j'ai l'impression qu'après tu t'arrives mieux à en parler, t'arrives à mieux l'assumer, et peut-être à en faire une de tes casquettes.
Moi, j'ai l'impression que j'arrive à un stade de mon cheminement où je sais que je rentre plus dans aucune case. Donc, j'ai envie de me définir en tant qu'artiste parce que je produis. J'attends pas qu'on appose ce dénominatif sur moi. J'ai envie de me dire que je suis artiste parce que je crée, que ce soit rémunéré ou pas. Et maintenant, ouais, j'assume pleinement le fait de dire que je suis artiste. Ouais.
Parce que, justement, on a toujours ce... Enfin, je trouve, hein, dans toutes les interviews que j'ai pu faire, il y a des personnes qui sont artistes, on ne peut pas les définir autrement, et qui ont toujours ce recul. C'est comme si ce n'était pas légitime, en fait, parce qu'il y a tellement d'imaginaire aussi qu'on met derrière l'artiste, un peu cette personne un peu aussi en décalage, alors que pas du tout. En fait, c'est tout à l'heure Camille a parlé d'âme d'artiste, sur le fait de se sentir parfois artiste sans forcément l'être, alors que je pense que si on a une âme d'artiste, c'est qu'au fond aussi on est un artiste, et peut-être qu'on a tous un peu d'art en nous, et qu'il y a des personnes qui réussissent justement à pouvoir avoir la chance de vivre de leur art, et d'autres qui ont peut-être juste pas simplement sauté le pas.
Camilla a dit quelque chose de très intéressant avant l'enregistrement. Elle parlait de voix artistique. Il faut juste trouver la voix avec laquelle l'artiste qui est en nous sait s'exprimer. Camilla, c'est par la danse, elle sait que son âme d'artiste s'exprime par ça. Siam, toi, c'est par la peinture. Toi aussi, je crois, Rizlen. Moi, je sais que écrire, c'est vraiment ma voix. Je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas une journée qui passe sans que j'écris, soit sur mon carnet, soit sur mon téléphone. Mais tu le sais, c'est ta voix et tu en as besoin.
Après, il y a aussi et c'est très intéressant ce que tu dis, Amina. Après, enfin, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à démêler, contrairement aux autres personnes autour de cette table, parce que je suis encore dans ce cheminement-là. Mais c'est aussi dû à la quasi-sacralisation, tu vois, de l'art, de manière générale. C'est-à-dire que j'ai un rapport à l'art, que ce soit un rapport à la littérature, parce que je suis passionnée de littérature depuis que je suis toute petite, à la danse, parce que je suis passionnée, fascinée par la danse et par plein d'autres choses, mais c'est vraiment les deux pratiques artistiques qui me touchent le plus et avec lesquelles je suis le plus en résonance. Que pour moi, on rentre limite dans quelque chose de trop important, en fait, pour être pris à la légère et pour que je puisse apposer ce qualificatif sur moi. Concrètement, aujourd'hui, je n'ai pas fait le choix, encore une fois, de créer tous les jours et de vivre de mes créations. Donc, je pense que c'est aussi ça. Il faut que je réussisse à désacraliser le statut, enfin, faire descendre l'art de son piédestal, en quelque sorte. Mais bon, après, c'est encore une fois, c'est lié à un cheminement personnel. Et
Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Parce que, c'est pour ça, quand je t'écoutais tout à l'heure, c'était vraiment... moi, en fait, ce que j'aime dans l'hip-hop, c'est ça. Tu vois, c'est que le hip-hop a réussi, c'est le mouvement artistique qui a réussi à désacraliser. D'où tu viens, comment t'es, peu importe, gros, mince, petit, tu peux danser. Ouais. Tu vois, le hip-hop, c'est ça. Ouais. C'est l'idée de, t'as pas de moyens, mais c'est pas grave, tu peux être artiste aussi. Et c'est pour ça, c'est peut-être aussi parce que je suis rentrée dans le milieu artistique par cette voie-là, qui fait que moi, je vois pas les arts, en fait, avec ce côté... au-dessus, comme la plupart des gens. Et c'est ce qui fait que, en fait, peu importe après les milieux où j'ai pu travailler ou côtoyer, que j'ai pas ressenti ce côté inférieur. Voilà. Et que, du coup, je me suis sentie tout de suite artiste. Et alors, en fait, le hip-hop, c'est ça, c'est « et alors ?» En fait,
on vient des banlieues, on est machin, on est de telle origine, on connaît pas le solfège, je m'en fais de la musique. Tu vois ?
Ouais.
Mais aussi parce que dans le système scolaire, on va pas se mentir, exactement, ça a toujours été des matières un peu à part, où c'est pas totalement inscrit aussi dans le programme, et c'est pas, on nous apprend pas ça comme un métier, mais comme une activité ou un hobby. C'est, tu as des qualités. Enfin, moi, depuis petite, je dessine. Et on m'a toujours dit, quand j'étais à l'école, tu dessines bien, c'est ton hobby. Et je me souviens juste de... Et c'était vrai, c'était juste mes profs d'art plastique qui trouvaient ça dommage que je n'approfondisse pas cette qualité, tu vois. Et alors qu'à côté, c'était, non, mais c'est pas un métier de faire du dessin. Les gens ne gagnent pas leur vie, il faut avoir des études, il faut faire ci. Et en fait, ça s'est aussi inscrit dans le système français. Je sais que dans d'autres systèmes, enfin, c'est pas vraiment pour critiquer, mais voilà, où c'est un hobby, une activité. Et d'ailleurs, nous-mêmes, parfois, dans le CV, c'est ce qu'on... Enfin, je veux dire, dans un cursus lambda, moi, je sais que, par exemple, dans mon CV, on voit absolument pas mon côté artiste dans mon CV. C'est plus dans les trucs à côté de ce que j'aime faire. Voilà, c'est pas vraiment une compétence professionnelle parce qu'on nous a appris à faire comme ça. Et c'est pas non plus totalement assumé. Voilà, enfin, en tout cas, pas chez tout le monde.
J'ai envie de vous poser une question, si je peux me permettre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des disciplines artistiques qui nous sont refusées à nous?
Ça rejoint ce que j'avais envie de dire. Ouais.
Complètement.
Ouais. Mais avant ça, je crois que tu voulais dire quelque chose, Rizlaine, non ?
Ouais, je voulais dire un truc. Mais en fait, je pense que ce que tu dis
sur le fait que ça se retrouve pas dans le CV, que c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant comme une compétence professionnelle, ça en dit beaucoup sur notre société qui est très dans la productivité. Où il faut que ça ait une utilité tout de suite, que ça fasse, qu'on gagne de l'argent. Et moi, dans mon CV, je sais que pendant longtemps, il n'y avait même pas, même en hobby, il n'y avait même pas écrit peinture ou dessin ou art. Je suis en train de m'en rendre compte maintenant. Et parce que je faisais vraiment la dichotomie entre ma vie personnelle, mes engagements, mon art, et mon cursus scolaire et professionnel. Alors qu'en fait, dans l'art, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on arrive à dire des choses sans... On arrive à exprimer sans parler. Ou on arrive à exprimer en écrivant, mais en posant des mots justes qui arrivent à... En fait, ça parle de notre âme. Ça parle de ce qui est vraiment vivant et pas juste de ce qu'on produit. Et c'est dommage que ce soit aussi refusé à certaines catégories de population quand même. Parce que dans les milieux plus aisés... c'est valorisé, on est considéré comme étant voilà, intellectuel, artiste, et puis c'est pas grave si on produit pas, alors que nous, moi j'ai vraiment l'impression, moi je suis issue du coup de, comme ils disent, de l'immigration, on doit produire quoi. On doit produire et on doit produire ce qui va servir la société, et pas ce qui va l'inspirer, ou pas ce qui va nous inspirer, ou parler de notre humanité, ou prendre du recul.
Donc ouais, ça rejoint ce que du coup la question de Sarah sur le fait que parfois c'est aussi un milieu qui n'est pas fait pour entre guillemets tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous dire, et que si ça rentre pas dans certains codes d'une certaine tranche sociale, et ben parfois c'est pas de l'art. Alors que c'est juste que c'est un art qui s'exprime différemment.
Mais c'est encore pire que ça. Je réponds à ta question, Sarah, et j'ai un exemple qui me vient en tête là maintenant tout de suite. Le piano, c'est un instrument que j'ai toujours trouvé magnifique depuis que je suis toute petite. Bon, évidemment, j'ai jamais mis un doigt sur un piano, mais il y a plein de choses comme ça, je pense, qu'on s'est interdit et qu'on s'interdit. Et il y a un artiste qui monte de plus en plus, et moi que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Sofiane Pamart, qui est pianiste. Moi, à chaque fois que je l'écoute, je suis bouleversée. Et peut-être que, et je n'ai jamais forcément écouté de musique classique avant, ou de pianiste, ça m'est jamais arrivé. Mais ce mec-là, Sofiane Pamart, qui arrive avec son talent de pianiste pur, donc il a été au conservatoire, cursus et parcours classique, mais qui arrive à désacraliser justement le truc en travaillant pour des rappeurs, en amenant un côté urbain, un côté contemporain et moderne, qui fait que tout à coup, ça explose toutes les barrières, mais ça te transcende aussi quand tu l'écoutes.
Il l'a vulgarisé aussi, c'est accessible.
Exactement.
Et ça parle à tout le monde.
Voilà. Et quand il parle et quand il est en interview, il dit « J'étais pas forcément destinée à ça. Maintenant, moi, à 3-4 ans, on m'a mis un piano entre les mains. On a vu que je me débrouillais bien et j'y suis allée, tu vois. » Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, cette idée de la sacralisation de l'art, il y a aussi ce que j'aime moi. Tu vois, moi, je suis encore une fois passionnée de littérature, mais la littérature qui me touche, c'est le 19e siècle français, le 19e français. La danse orientale, moi, mes grandes figures, c'est Nabawi et Mustapha, c'est les danseuses de l'âge d'or, plus contemporaines, c'est Dina, c'est Fifi. Donc, il y a une dimension, l'art, c'est quelque chose à préserver, c'est un héritage. Et pour me dire artiste, dans ma tête, hein, c'est comme s'il fallait que j'écrive comme Baudelaire ou Barbey d'Aurevilly, tu vois, impossible, ça n'existe pas. Ils ont déjà existé déjà, ou bien que je danse comme Dina, Nabawi et Mustapha ou Tahia Karyo. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a aussi les figures, enfin la filiation dans laquelle je m'inscris, ce que je considère être beau, ce que je exactement. C'est un niveau d'exigence qui est tellement élevé, et surtout en danse orientale. Pour moi aujourd'hui, les danseuses orientales, enfin. Je le dis, je parle pour moi encore une fois. Hein. Je pense qu'on a limite une responsabilité politique parce que c'est un art qui a été tellement dévoyé au point de devenir un espèce de striptease oriental, un divertissement pour hommes. Alors que la danse orientale, c'est une exaltation de la féminité, c'est une mise en valeur de la femme et de toutes les femmes. J'aimais beaucoup ce que tu disais tout à l'heure en danse orientale. T'es grande, mince, petite, maigre, grosse, verte à points rouges. T'es magnifique quand tu danses, tu vois. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que et en France encore une fois,
on a aimé l'expression vers sa part rouge. On a beaucoup, mais c'est pour ça qu'on s'est regardé. Et en fait, il y a une connexion. J'aime beaucoup.
Non. Ouais. Et moi, ça m'a paru tout à fait normal.
mais du coup, et en France typiquement, il n'y a pas de formation académique pour être danseuse orientale. C'est-à-dire que n'importe qui, demain, peut ouvrir un cours et dire « je suis danseuse orientale ». Et donc ça ne nous facilite pas la tâche. Donc il y a tellement de choses à déconstruire aussi, un imaginaire orientaliste, héritage colonial, des choses à déconstruire que je me dis « quelle pression !»
Moi, j'ai bien une question à te poser, justement. Est-ce que ce n'est pas le fait d'être, entre guillemets, je mets des grandes guillemets, « arabe », que tu te mets encore plus cette pression-là? Est-ce que tu, si tu n'étais, je sais pas, si tu étais européenne, n'importe, tu aurais peut-être osé te dire danseuse orientale?
Ah ben ça c'est clair. Oui, voilà. Bien sûr. Je pense que bien sûr, c'est-à-dire que on a une place centrale dans le récit qu'on raconte. Mm-hmm. C'est quand même, ça, on est directement concerné. C'est qu'on le veuille ou non, hein, c'est notre patrimoine, c'est notre culture. La danse orientale fait partie de notre patrimoine et de notre culture. Les danses orientales, berbères, enfin traditionnelles, ça fait partie de notre. Donc, il faut l'honorer correctement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, il y a une pression supplémentaire due au fait que c'est mon héritage.
Je pense aussi que si t'occupes pas l'espace, d'autres personnes occuperont l'espace.
Clairement. Mm.
Et le fait de la sacralité, il y a du bon, mais le mauvais, c'est justement le fait que ça soit inaccessible et que ce soit les personnes qui pensent mériter d'y aller qui y vont sans forcément en être légitimes. Et aussi, pour qu'il y ait des grands artistes, il faut d'abord qu'il y ait des artistes. Et un grand artiste, il commence petit artiste. Mmh. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes qui n'ont pas connu... de gloire pendant leur vie et qui sont morts inconnus. Donc je me dis c'est vrai qu'il y a tout cet enjeu de préservation cette exigence mais il y a aussi ce qu'il y a derrière, c'est le fait que ce soit inaccessible et vraiment, franchement, si c'est pas nous qui prenons la place, c'est d'autres personnes. Et l'art, c'est hyper puissant. Ça parle à notre imaginaire. Aujourd'hui, il y a énormément de problématiques qu'on peut expliquer par l'imaginaire collectif. Le racisme, le sexisme, le classisme. On a un imaginaire derrière ce que c'est que la femme, ce que c'est qu'un arabe, ce que c'est qu'un noir, ce que c'est qu'un... et cet imaginaire-là, il est aussi très visuel. Il est dans le mouvement.
Il se transpose dans l'art.
Ouais.
Et tu le vois, parfois, tu te reconnais pas quand tu vois des représentations... je pense à des peintres, Picasso, il y a eu plein de choses où tu te dis où t'as pas du tout la même vision selon si tu es blanc ou une personne racisée, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est un pouvoir de ouf
qu'on se refuse.
Quand vous prenez la définition du mot artiste, un artiste, c'est le travail du beau. Et j'ai envie de changer en fait cette définition et me dire que finalement on est artiste quand on touche quelqu'un d'autre avec ce qu'on a. Donc c'est peut-être moi qui ai des exigences un peu moins hautes que les tiennes, Camilla, ou qui suis trop optimiste. Mais quand moi j'écris un texte et que t'as quelqu'un qui me dit j'en ai les larmes aux yeux ou j'ai les frissons, bah je me dis bah ouais, j'ai le droit de me dire ouais, je suis une fucking artiste.
Ouais, parce que pour certains c'est juste le fait aussi d'être connu. Tu es artiste parce que tu es connu. Ouais. Et à partir du moment où tu ne l'es pas, donc c'est, voilà, c'est quelque chose que tu fais à côté, mais tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de l'autre, dans l'art, chez certains, c'est... Enfin, pour beaucoup, hein, on va souvent entendre « Ah ouais, mais lui, il fait ça, vas-y, moi, je peux être connu, je peux faire mieux. » T'entends beaucoup de choses comme ça, où tu te dis, en fait, ton art n'existe que si l'autre valide. Tu vois, tu as des artistes qui font des choses mais incroyables à partir du moment où... Par exemple, elles ne sont pas exposées ou dans des vernissages, bah, t'es pas connue. Nous, enfin, je me souviens juste, ça m'a fait penser à ça quand on était partis ensemble à la Fondation Louis Vuitton. On avait vu une expo. L'art, il nous avait pas forcément touché. Tu te rappelles, on est partis au bout de 5 minutes. Ça reste de l'art. Mais on n'a pas du tout été touchés parce que tu parlais d'émotion. En fait, c'est ça, c'est qu'on est tous touchés par des choses qui sont différentes. Parfois, ça nous parle, parfois, ça ne nous parle pas. Parfois, ça rappelle des choses qu'on a vécues, etc. Mais ça reste de l'art, même si on n'est pas touché, ou que ce soit connu ou pas, d'ailleurs. Pour le coup, en plus, c'était une artiste qui était très, très connue. Et ouais. On n'avait pas du tout adhéré. Au bout de 5 minutes, on est parti. Bah, la preuve, ouais, j'arrive pas à retrouver le nom. Et la dame, à la fin, nous avait fait un petit formulaire questionnaire. Et en fait, on avait vraiment... C'est pas qu'on n'avait pas... Enfin, ça, on n'a pas aimé, pas parce que c'était pas beau ou parce que c'était moche ou je sais pas, mais c'est juste que ça nous avait pas touché, mais vraiment pas, et qu'on se reconnaissait pas dans ça.
Après, je trouve que dans la reconnaissance des autres, le fait de se dire est-ce qu'on est artiste parce que les autres nous reconnaissent, bah, je trouve que c'est hyper dommage de réduire ça à ça. Et pareil sur le côté, parce que ça veut dire qu'on peut pas parler, être artiste aussi, c'est laisser une trace derrière nous. Voilà, c'est que ce soit la trace de nos états d'âme, de nos émotions, de notre vécu, de l'esthétisme, de ce qu'on estime être beau. Et moi, il y a des personnes, une fois j'étais tombée sur une chanson d'une femme pas du tout connue, mais qui disait des choses qui me touchaient tellement. Et j'ai une amie qui se lance dans la musique. Voilà, aujourd'hui, elle n'est pas suivie par des milliers de personnes, mais elle parle de ce que c'est qu'être une femme noire, elle parle de ses cheveux, elle se célèbre. Et voilà, et on sent aussi que son objectif, ce n'est pas tellement la prouesse artistique d'avoir une voix à la Beyoncé qui touche toutes les différentes tonalités. Ce qu'elle veut, c'est partager son message avec la musique, avec une énergie, avec une... Et je trouve que c'est trop bien en fait, et c'est une artiste parce qu'elle marque son temps dans son espace à un moment donné, et peut-être que ça touchera des générations, dans 3 générations, peut-être que ça touchera que 10 personnes, mais ça si tu touches déjà une personne, c'est incroyable.
C'est ça.
Moi aussi, ce que je voulais dire, le truc, c'est que justement, faut qu'on y aille en vrai, parce que quand tu vois que, bah voilà, moi j'ai fait des études en histoire de l'art, machin, tout ce qu'il y a de plus classique, mais le truc, c'est que quand tu te rends compte à la fin de ton cursus que tu n'arrives pas à citer une artiste femme d'origine, j'ai passé 5 piges à étudier, je connais tous les mouvements, machin, etc. Tu n'étais pas capable de citer une seule artiste peintre, femme, qui serait du Maghreb, d'Afrique, ça craint quand même. Et en plus, une fois que tu quittes l'école et que tu fais tes propres recherches, ce qui a été mon cas, tu te rends compte justement, parce que tout à l'heure tu parlais de Picasso, qu'on ne se reconnaît pas dedans. Mais si tu regardes bien, on se reconnaît un petit peu parce qu'il a été inspiré, entre autres, par une peintre, par exemple, comme Baya. Ouais. Quand même, c'est bien de le dire, quoi, parce que une peintre algérienne. Et voilà, la modernité, on aime bien dire que ça vient d'Occident. Alors que l'abstraction, ça vient d'Afrique. Ouais. Donc bon.
Mais il s'est beaucoup inspiré, hein, Picasso, d'artistes.
D'Afrique.
D'Afrique. Voilà. Ouais. C'est pour ça. Ouais.
Donc moi, en fait, ça me parlait beaucoup, les peintures de. Parce que, en fait, après, peut-être parce que j'ai la chance d'avoir un père avec une culture un peu comme ça, qui aime bien me montrer ce qui se passe ailleurs. Du coup, moi, les premières fois où j'ai vu à l'école les peintures de Picasso, je me suis dit,
Bon, on dirait les trucs africains, là, chez mon pote malien, là, les trucs, tu sais, les masques, les machins, mais je disais ça juste parce que moi, c'était mes références, mais à l'école, on m'a pas validé le fait que c'était le cas. C'est bien après que j'ai su ça.
Ouais. Et, ouais, je voulais dire...
Moi, je disais juste que c'est hyper important, et merci de le rappeler.
Et justement, comment est-ce qu'on arrive, parce que du coup, pour le coup, toi, Siam, tu vis aujourd'hui de ton art, comment est-ce que justement cette frontière, tu l'as dépassée et tu en es arrivée à te dire, c'est bon, je suis artiste, c'est mon métier, c'est ma vie, avec tout, toi, tous les, même les fantasmes qu'il y a derrière cette vie d'artiste. Hein.
Ouais, alors moi, encore une fois, j'ai dit, c'est pour ça que j'aime bien le dire, parce que j'ai un parcours particulier, donc du coup, c'est pas tout le monde qui va se retrouver... De toute façon, il n'y a pas qu'un seul parcours. Ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver dans ce que je vais dire, je pense. Bon, déjà, voilà, je me suis toujours définie comme artiste et on m'a toujours définie comme artiste, même quand je faisais d'autres jobs à côté. Tu vois, donc pour moi, c'est un peu... J'ai jamais eu vraiment de changement. C'est-à-dire, même quand je gagnais pas ma vie avec, à côté, j'avais toujours des pratiques et je me considérais toujours plus artiste. Et le reste, c'était en plus. C'était le contraire, en fait, pour moi. Tu vois, le reste, c'était pour gagner, payer mes factures. Donc, mais parce que comme j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai bien vu, la plupart des artistes, c'est comme ça. Même ceux qui sont connus et les gens, ils voient les paillettes. Mais dans la vraie vie, les artistes, la plupart, ils galèrent. Beaucoup d'artistes. Mais après, quand on aime tellement ça... On le fait et ça nous paraît évident parce que je pense que c'est plus un mode de vie, un choix de vie, comme je vous disais tout à l'heure, que autre chose, quoi. Donc après, moi, en fait, là, c'est juste parce que je suis devenue maman et que, en fait, j'en avais aussi un peu marre de tous ces jobs alimentaires à faire. Et je me suis dit, comme j'ai en plus eu des problèmes de santé, j'étais un peu bloquée à la maison, je me suis dit, bon, allez, je vais faire mon statut, comme ça, je ne ferai que ça. Voilà, c'est la première fois que je décide de ne faire plus que ça, effectivement. Mais... voilà, sinon... Enfin, pour moi, c'est je ne peux pas faire autrement, en fait. Oui. Même quand je fais autre chose, je n'y arrive pas. Et c'est plus fort que moi.
Ouais, c'est ton destin, comme on dit. Je ne
sais pas, mon destin, mon caractère. J'ai beaucoup de mal aussi à rentrer dans certains modes de vie. Voilà. Je le fais par obligation, parce qu'il faut des fois. Et je comprends qu'on le fasse. Mais voilà, je n'ai pas de recette.
faut suivre ce qu'on a au fond de soi, voilà, simplement.
C'est ça.
Voilà.
Mais aussi parce que après moi dans mon tempérament j'aime partager, j'aime les gens, tu vois. Donc je peux pas faire autrement. Je peux pas, sinon je m'ennuie.
Bah, une artiste complète, voilà, c'est tout, c'est toi, voilà, tout simplement. Voilà. Ouais. Et justement je voulais revenir sur cette notion du fait des représentativités aussi des autres dans l'art. Et l'art multiple, la littérature, ça me rappelle aussi un podcast que j'avais fait avec Diana dans la littérature. Par exemple, ce qu'on va apprendre aussi dans le programme scolaire, on va rarement lire des bouquins autres que du Zola, du Flaubert, Victor Hugo. Enfin, moi, c'est une période comme toi, hein, pour le coup que je partage avec Camilla, j'aime beaucoup le 19e siècle français, mais pour le coup aussi anglais. J'aime beaucoup ça, mais jamais à l'école, j'ai eu, à part quand j'étais en prépa où j'ai lu Kundera, voilà, mais il n'y a pas eu vraiment d'auteur où on m'a dit c'est de la littérature africaine, c'est de la littérature asiatique. Enfin, ça a toujours été très centré, en fait, sur... je ne sais pas si je pourrais dire c'est très chauvin, mais un peu quand même. Et puis même, quand on va parler aussi de littérature, les noms que la plupart des gens vont donner, voilà, on va parler de littérature française. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de Faïza Ghen, pour beaucoup, alors que c'est une grande écrivaine, pour beaucoup, oui, enfin bon, c'est une écrivaine algérienne ou... issue de l'immigration ou de la banlieue. Pour certains, ce n'est pas de la vraie littérature et on ne va pas la prendre comme ça. Voilà. Après, il y a heureusement aujourd'hui des professeurs, on entend souvent, qui donnent des textes à étudier aux élèves comme du Kerry James, Medine, Faïza Ghen. Et heureusement, justement, je voulais avoir votre avis là-dessus.
c'est super intéressant ce que tu dis parce que, bon, moi j'adore Victor Hugo, j'adore tous les classiques que tu viens de citer.
L'un n'empêche pas l'autre, on est d'accord. Exactement, de toute façon, c'est ça.
C'est ce que j'allais dire. Mais parce qu'en fait, en France, hein, je pense qu'il y a un rapport à la littérature, et un rapport à la culture et à la littérature en particulier, spécial. Parce que c'est vraiment le fleuron de la culture française. Et quand tu investis les milieux littéraires, quand tu fréquentes les milieux littéraires, tu te rends compte de l'élitisme. Mmh. À quel point ce sont des milieux qui sont ultra élitistes. Moi, j'ai fait une prépa littéraire, Hippocagne, sur deux classes de 45 élèves. J'étais la seule rebeu issue de cité, issue de banlieue. Toi, je sais que c'est pareil.
C'était pareil, ouais.
Et ça dit quelque chose. C'est-à-dire que les mots, les lettres, l'expression de littéraire, elle est réservée à une certaine élite. D'ailleurs, la première chose qu'on me dit quand j'arrive en prépa, c'est « vous êtes l'élite intellectuelle de la nation française ». J'imagine un peu la pression. Donc voilà, il y a ce statut qui fait que la littérature française, c'est Molière, Zola, ben, tu vois, c'est ça. Et je trouve ça dommage, parce que quand tu t'intéresses à la littérature francophone étrangère, tu y retrouves une richesse. C'est-à-dire que je parle sous votre contrôle parce que je sais que vous lisez beaucoup, peut-être sous le tien en particulier.
Je valide de la tête, je hoche depuis.
Ouais.
Quand tu lis des auteurs étrangers, là tout de suite je pense à Fatou Diome, tu te rends compte à quel point tu te rends compte de la manière dont elles colorent leur style. C'est-à-dire qu'elles écrivent en français, mais elles ont des manières de s'exprimer, des figures de rhétorique qu'elles utilisent davantage. Moi, je sais que j'écris beaucoup, j'écris en français quand j'écris, évidemment, c'est ma langue maternelle, mais dans la manière dont j'écris, parce que je suis imprégnée aussi de ma culture arabe, mon style s'en ressent. Je suis sûre que toi aussi.
Elle m'enlève la bouche, je n'ai plus rien à dire, je ne suis
pas là. Par exemple, j'utilise beaucoup d'anaphores. D'apostrophes.
Je vais te donner un exemple à ce que tu disais, tu prends un écrivain comme Amin Maalouf.
Ouais.
Qui est bilingue, enfin il parle le français et aussi bien que l'arabe, tu le ressens dans son style.
Bien sûr.
Toute la métaphore arabe, la poésie arabe, tu te prends une claque. Pareil pour Yasmina Kadra. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, en littérature arabe francophone, c'est le mélange de ces deux backgrounds qui sont juste majestueux, quoi. Voilà, tu as tout dit, Camille.
Non, mais moi, quand je lis ces auteurs, j'ai des frissons. Parce qu'ils arrivent à se faire rencontrer deux choses qui sont en moi. C'est-à-dire qu'il y a l'amour des lettres, des mots, mais il y a aussi cette richesse. C'est beaucoup des figures de rhétorique qu'on retrouve chez nous en particulier. Donc l'anaphore, l'apostrophe, toute la mystique autour des astres, autour de toutes ces choses-là qui sont vraiment propres à la littérature arabe et à l'expression arabe et à notre culture. Donc oui, c'est dommage parce que ça nous ouvrirait des horizons. Mais on est obligé d'aller chercher ça nous-mêmes. Enfin, voilà.
Et je voulais juste faire un point parce que tu as mentionné Faizagen. Faizagen, pour avoir échangé avec elle s'est retrouvée sous le poids de ce devoir que tu mentionnais, Camilla. C'est qu'elle s'est retrouvée projetée en représentante de nos communautés.
Oui.
Elle écrit pour nous, alors qu'elle ne voulait pas. Elle voulait simplement écrire parce que c'était une artiste et elle le dit... J'écris parce que j'en ai besoin. Et elle se retrouve avec tout ce poids, tout ce fardeau de devoir écrire et bien écrire pour représenter les siens. Donc maintenant, elle le dit, je me dois d'écrire pour les miens.
Mais son dernier ouvrage, c'est ça aussi. Ouais. Et pour le coup, Faïza, Rizlen la connaît aussi.
Et c'est exactement, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup ce que vous dites. Moi, j'aimais pas lire. Hein. Moi, j'aime pas la littérature du 19e siècle française, genre, je vous le dis. J'ai jamais réussi à lire Zola, j'ai jamais réussi à lire Balzac, ça me faisait hyper chier. Au bout de deux pages, je m'endormais.
Je peux comprendre. Moi, c'était Stendhal. Perso, c'était Stendhal, j'ai eu du mal.
Et c'est après Flaubert que je trouvais mental. Lire les résumés, je trouvais ça sympa. J'ai envie, ok, l'histoire est sympa. Mais tous les détails, vraiment, j'avais du mal. Et donc, du coup, moi, je pensais que j'aimais pas la lecture. Jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. Où une amie m'a prêté un livre que j'ai adoré, d'un homme, d'un juif d'Europe de l'Est qui était journaliste et qui parcourait le monde arabe. Ça m'a fait redécouvrir le monde arabe. Je me suis retrouvée dans cette lecture et j'ai fait que lire après, d'abord des livres qu'on dit qui initie au voyage, mais en fait, c'est juste des livres qui sont pas français.
Ouais.
C'est tout. Et puis ensuite, plein d'autres types de littérature. Et maintenant, je reviens à la littérature française. J'ai toujours pas lu Zola, toujours pas lu Balzac. Je sais pas si j'arriverai à m'y mettre. Mais en tout cas, je pense que c'est important de... Bah, de pouvoir proposer ça aussi à des jeunes, et surtout quand bah, pour que tu puisses te lire aussi un petit peu, et c'est pas grave, ça nous enlève pas le fait qu'on soit aussi français, parce que la manière dont on va lire le livre, ce sera en français, donc avec notre logique de français. Ah, c'est le voyage vers la Mecque de Mohamed Assad.
Ouais, ça a l'air super intéressant, le bouquin.
Ouais, hyper intéressant. Et puis ça m'a aussi permis de prendre du recul sur le monde arabe, sur ma propre culture. Où en fait, c'est ça le truc, c'est que comme moi j'ai senti, hein, plus jeune, comme j'étais pas nourrie par ça, et ben je me suridentifiais. Je sais pas si vous avez connu, hein, moi je sais qu'au collège, vite vu le Maroc, ah oui, le Maroc en force, l'appartenance, Algérie en force, ouais, tout ça, ça a aucun sens. Mais on avait besoin, le drapeau, on en a besoin parce qu'on n'a pas les outils, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Pareil sur la religion, au final, moi j'ai eu besoin d'avoir un marqueur, d'être très identifiée en tant que musulmane, et mon marqueur c'était l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui ça n'allait plus du tout, mais parce qu'il a fallu que j'ai les éléments nécessaires. Donc en fait souvent on nous prive de ça en pensant que ça nous permettrait d'être plus français, mais en fait pas du tout.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est tellement juste ce que tu dis et ce que tu décris. Et tu mets le doigt sur l'échec de soi-disant politiques d'intégration qui se confondent avec des entreprises d'assimilation et d'uniformisation. Moi, je ne serai jamais 100% française. Je m'appelle Camille Othmani et c'est comme ça. Et je pourrais décider demain de m'appeler Elisabeth et d'appeler mes enfants autrement. Ils auront toujours la gueule qu'ils auront. Et c'est comme ça. La seule chose concrète, enfin, les deux monstres concrets, c'est soit des personnes qui refoulent leur identité, qui ne la connaissent pas, qui ne veulent pas la connaître, qui mettent un couvercle dessus, qui ont honte d'eux-mêmes. Soit des gens, comme tu l'as si bien décrit, qui surinvestissent, qui se suridentifient, qui sont dans une surenchère, mais quand tu parles avec eux, les trois quarts du temps, ils ne savent pas parler arabe. Beaucoup n'ont jamais été dans ces pays-là. Ils ne connaissent rien de la culture. Ils ne connaissent rien des us et coutumes.
Et quand ils sont là-bas, ils sont...
Quand ils sont là-bas.
C'est des émigrés, c'est des Français, et ils ne sont pas...
Ouais, ils sont perdus.
Donc ils n'ont pas de place, en fait, finalement.
Exactement. Donc tu as ces deux trucs-là. Tu as des mecs qui fantasment un Orient, mais... comme les autres au final, hein, qui fantasment un Orient au sein duquel ils pensent qu'ils auront une place. Et t'en as qui sont dans le rejet total de qui ils sont. Et moi, je dis simplement qu'entre les deux, bah, y a la voie du milieu. Et je pense qu'on est beaucoup plus nombreux dans cette voie du milieu que ce qu'on veut bien nous faire croire, à être à l'aise avec nos deux identités. On réussit à les concilier. Et moi, je ne sais pas pour vous, je ne me suis jamais posé la question de mon intégration. Moi, je suis française. Et quand on me demande être français, c'est quoi ? Être français, c'est pas avoir un sauciflard sous le... ben non, et porter un béret et manger une baguette, non ?
Attention, je porte un béret.
Très joli, très très joli.
En plus, je suis peinte. Comme j'aime bien les clichés.
Mais ouais, mais pour moi, tu vois, être français, il y a plusieurs choses, mais il y a le rapport à la culture.
C'est pas que, j'en parle. C'est pas que le cliché de... Ouais.
C'est le rapport à la culture. C'est quoi ? C'est la culture française, qu'est-ce que c'est ? Donc le rapport à la culture, il y a toute la culture, c'est-à-dire à toutes les cultures en réalité. Et le rapport à la contradiction, bien sûr. Le rapport à la contradiction, au débat, au dialogue, ne jamais être content et satisfait de l'ordre établi. Aujourd'hui, on nous reproche ça en tant qu'enfant d'immigré parce qu'on devrait dire merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Je dis merci de quoi ? Moi, je n'ai pas demandé à être, j'ai pas demandé à être là, tu vois. Donc, c'est ça, être français. C'est remettre en question l'ordre établi et avoir un rapport à la culture qui fait qu'on est français. On sait ce que c'est qu'être français. Pas des espèces de totems qu'on nous agite en permanence et qui sont vides de sens, en fait.
Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, justement, c'est en rapport sur la désacralisation, en même temps, ce côté qu'on est, en fait, les deux cultures. Et ce que tu disais par rapport à Faizagen, qui se retrouve avec le poids sur le... Ben voilà, un peu cette mission de devoir représenter le Maghreb de France, quoi, en gros, c'est ça. Et moi aussi, j'ai ressenti ça à un moment donné. Je pense qu'il y en a certains que, justement, ça retient de se lancer dans ce genre de... Voilà, de carrière, on va dire, parce qu'ils sentent que derrière, en fait, il faut... voilà, c'est comme pour la calligraphie, je vais donner un exemple voilà, hyper concret. La calligraphie arabe, il n'y a pas plus codifié, c'est hyper codifié, voilà, c'est beaucoup de règles. Et en fait, les gens apprécient aujourd'hui mon travail souvent parce que je prends la calligraphie, j'ai appris la calligraphie, mais je ne suis pas calligraphe, mais... En fait, on reconnaît la calligraphie, mais je n'ai pas utilisé tous les codes en fait de la calligraphie arabe parce que c'est bon, voilà, c'est vrai que c'est très codifié, qu'il faut connaître beaucoup de styles pour être reconnu comme calligraphe, et c'est pour ça que je reviens à ça parce que moi c'est ce que j'ai envie de montrer en fait aux gens, c'est un peu il y a des choses, c'est à nous en fait, voilà. Prends-le, c'est à nous. Parce que moi, pendant longtemps, ado, je mettais tout ça, tout ce qui, en fait, était en rapport avec ma culture, un peu de côté, par peur de ne pas être légitime, ouais, en fait, de ne pas faire les choses comme il faut. Et maintenant, je fais le contraire, en fait. Maintenant, c'est aussi à moi, en fait, la calligraphie arabe ou autre. C'est aussi à moi, les signes berbères que ma grand-mère, elle avait sur son front. Tout ça, c'est à moi. Mais la France aussi.
Ouais.
Voilà. C'est à moi.
J'aime bien ça. La France, c'est à moi.
Ouais.
Mais c'est vrai.
Mais oui, on ne devrait pas rougir de ça. Hein. Mm-hmm,
complètement.
Pas du tout. Hein. Et aujourd'hui, il y a un gros problème de questions identitaires, en fait. Et on se retrouve avec des générations qui sont perdues dans tous les jeunes. Et cette question, justement, d'appartenance. Donc, on en arrive à on ne peut pas faire ci. Puis si on se sent français, ça veut dire qu'on est obligatoirement... on doit avoir se balader en fait avec un drapeau français, et que si on dit qu'on est par exemple binationaux, ça pose problème pour certains. Non, tu dois choisir. Oui, mais si en fait ça fait partie de nous, pourquoi est-ce qu'on doit choisir? Moi, c'est cette question de cette obligation de choix qui pose en fait problème aujourd'hui pour nous et pour les générations en fait à venir, dans le sens où voilà. Il y a une case, tu rentres dedans. Et si tu ne rentres pas dans cette case, bah, tu n'es pas français. Mmh. Sauf que voilà, c'est pas, être français, ce n'est pas seulement avoir un saucisson sous le bras et un béret sur la tête. Même si c'est très bien hein, d'avoir un béret. Hein, voilà, hein.
Du saucisson, attention.
Ouais, non, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ça dépend où on mange lequel. Bref, chacun a promis ce qu'il veut.
Un petit trait d'humour.
Voilà, on peut se détendre.
On est trop sérieuse.
C'est intéressant, en même temps, c'est super intéressant. Donc, et ça, on le retrouve aussi beaucoup dans l'art. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent justement à affirmer leur identité parce que ça se ressent dans l'art, où elles se mettent à faire de l'art.
Mmh. Moi, il y a un artiste qui m'inspire beaucoup par rapport à ça, c'est Mehdi, le rappeur.
Ouais.
Parce qu'on sent qu'il a envie d'être dans aucune étiquette.
C'est ça.
Qu'il est français, mais qu'il est aussi très critique de certains aspects de la France, qu'il est algérien, mais qui peut aussi être critique de certains trucs,
ouais.
Qu'il est musulman, et qui peut être aussi très... qu'il n'est pas représentatif de tous les musulmans, et puis il y a des personnes qui... En fait, on sent qu'il n'a pas du tout envie d'avoir toutes ces étiquettes, on sent qu'il incarne la convergence de toutes ces identités. Donc pour ça, je trouve que c'est cool et c'est aussi très courageux. Ouais. Parce que moi, je comprends aussi Faizagen quand elle dit... en fait, ce qui lui arrive, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes en minorité, c'est quand t'es là, tu représentes tout ton groupe.
Mmh.
Donc même quand tu travailles, quand tu fais les courses... Ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé à porter le voile, je m'autorisais plus... à dépasser des gens dans la queue, tu sais, à la cantine par exemple, ou tu sais, tous les petits trucs des filous qu'on pouvait faire plus jeune, parce que je me disais, mais là je représente tout le monde, je représente les musulmans.
Ouais, toute la pression et la charge mentale,
ouais,
finalement.
C'est ça, et tu as aussi des personnes noires qui vont dire ça au travail, ils font hyper attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils. Et donc en fait, tu as cette pression, et comme si du coup tu dois t'assigner à une étiquette, soit l'un, soit l'autre. et pour peu que tu changes de milieu et que, ou comme moi ça m'arrivait, tu prends les transports, tu arrives dans un milieu, voilà, tu arrives dans le 16e, après tu reprends le RERD, tu retournes à Stan, bah en fait tu es toujours là à naviguer, ouais, entre deux univers, et tu dois faire preuve de beaucoup de flexibilité. Mais tant qu'on ne parle pas de ça ouvertement, tant qu'on cherche à mettre une sorte de couvercle là-dessus, on n'arrivera pas, en fait. On n'arrivera pas à trouver quelles sont nos identités.
J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que cette pression, elle est surtout, on la ressent surtout, elle est imposée aux femmes.
Ouais.
Quand en France, il y a des attentats, celles qu'on va agresser dans la rue sont les femmes.
C'est les femmes, ouais.
Pendant la guerre d'Algérie, comment est-ce qu'ils ont dénoté dans leur idéologie impérialiste que les Algériens étaient inférieurs aux Français? Regardez leurs femmes, elles sont voilées. Et c'est toujours, la pression, elle est double sur les femmes et c'est oppressant, quoi.
Parce que c'est de une pression de l'intérieur et une pression de l'extérieur. Et comment on se débat avec ça? C'est à nous de le résoudre. C'est un problème qui nous est posé et que nous, on doit résoudre. Parce qu'en réalité, c'est pas notre problème, nous. Je pense que on est, on est bien représentatif de ça autour de cette table. On a des aspirations, des passions, des émotions, des choses qu'on a envie de projeter sur le monde. Et à l'intérieur de nos communautés, comme à l'extérieur de nos communautés, on est face à des incompréhensions. C'est comme si, nos contradictions étaient des contradictions encore plus outrancières parce que c'est nous qui les portons. On a tous des contradictions qui nous habitent. Je veux dire, c'est le propre de l'être humain. Et donc, c'est super intéressant ce que tu dis, Rizlaine, sur les femmes voilées, parce que moi, il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Arrêtez de penser que les femmes voilées sont des êtres éthérés, sans passion, sans pulsion, sans... Non, en fait, ce sont des femmes. Voilà. Avant d'être voilées, avant de porter le foulard, ce sont des femmes. Donc, elles peuvent faire des erreurs, et elles ne sont pas représentatives de l'ensemble des musulmans. Et j'ai même eu des discussions avec des femmes qui portaient le hijab, qui me tenaient exactement le même discours, qui me disaient « Non, en tant que femme qui porte le hijab, moi, je ne peux pas avoir ce comportement-là. » Donc, je ne les incitais pas non plus à faire le mal ou avoir des comportements inappropriés. Mais je dis simplement « Baissons nos exigences. Ouais. » Parce que ceux qui pointent le doigt et ceux qui ont ces exigences-là vis-à-vis de ces femmes-là, à quoi est-ce qu'ils s'astreignent, eux? À quoi est-ce qu'ils s'astreignent? Tu vois, à quelle discipline ils s'astreignent?
Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que ces femmes-là qui portent ce poids, même si on ne leur dit pas directement que leur comportement pose problème, elles vont entendre que « Ah, mais t'as vu cette fille ?» En plus, elle porte le voile. Ah, mais t'as vu celle-là? En plus, elle porte le voile.
Circonstance aggravante.
Si ouais. Une circonstance aggravante et que ça lui enlevait, du coup, sa part d'humanité.
Exactement.
Qui est avec sa contradiction, ouais, avec ses faiblesses. Et puis après, t'as aussi... je pense qu'il y a... Une fois, la première fois que j'avais entendu ça, c'était Hanan Karimi qui l'avait dit, qui disait qu'on porte une... Il y a une double injonction, contradictoire. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fondu en larmes. Je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça. Et tu te sens tiraillée comme ça, des deux côtés. Et que ce soit parce qu'en tant que femme musulmane, en tant que femme même dans les quartiers populaires, je sais que... Et c'est là aussi, ça te met un peu dans un étau, parce que t'as pas envie d'avoir ce discours-là, parce que tu sais que ça va rassurer la société, les blancs, qui disent, oui, mais faites attention à ces femmes qui sont oppressées dans les quartiers. Mais en même temps, il y a une part de vérité dedans, Et de l'autre côté, et t'as pas envie de faire plaisir à ces gens-là, parce que quand ils disent ça, c'est pas tellement pour te sauver, c'est plutôt pour frapper sur les tiens. Et de l'autre côté, où on va te reprocher d'être trop libre, d'être trop... Et c'est vrai que c'est c'est hyper compliqué. Et même, justement, pour revenir sur la question d'être artiste, c'est pareil. Genre, tu peux pas pratiquer ton... Enfin, c'est perçu comme étant bizarre d'un côté comme dans l'autre. Être une femme artiste...
C'est presque politique comme position.
C'est politique. C'est éminemment politique, je pense. Il n'y a rien de plus politique qu'une femme musulmane artiste. Voilà. On te dit aujourd'hui... Mais bien sûr. On te dit aujourd'hui que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible.
Non, mais je voulais juste te remercier, Camilia, pour ce que tu as dit, parce que tu as vraiment été représentative de ce qu'on ressent toutes. t'as commencé l'enregistrement en disant que t'avais vraiment un certain niveau d'exigence envers toi-même. Et ensuite, tu disais que t'avais une conversation avec une personne voilée et tu lui demandais de baisser ses exigences. Et je trouve que c'est exactement ça, c'est qu'on a un niveau d'exigence envers nous.
Ouais.
Voilà, cette contradiction-là, ouais. c'est ce qu'on représente toutes. Quoi.
Mmh. Clairement. Ouais. Mais c'est particulier parce que en fait, je pense qu'on est dans un espèce de conflit de loyauté. Ce que tu dis, parce que quoi qu'il arrive, ce sera jamais assez, hein, qu'on se le dise. Les filles qui portent pas le voile, elles peuvent par une partie très minoritaire en France. Hein. Moi, je reste convaincue que la plupart des nanas qui portent le voile en France, elles le font largement parce qu'elles le souhaitent et parce que ça fait partie de leur cheminement religieux et j'ai rien à dire sur ça. Mais quand il y a des pressions qui existent, quand tu l'as pas, évidemment, c'est une catastrophe. Quand t'as le turban, non. Quand tu portes le hijab mais qu'on voit un tout petit peu la naissance de tes cheveux, c'est pas le voile shar'i, c'est non, ça n'existe pas. Quand tu le mets comme ça, t'as pas le jilbab. Et quand tu mets le jilbab, t'as pas le niqab. Donc encore une fois, ces voix-là, pour moi, elles sont ultra minoritaires. Mais on les entend quand même. Et c'est d'une violence, en fait, je me dis, jusqu'où on va ? C'est jusqu'à quel point de disparition va-t-on ? Donc d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté... Tu peux pas porter le voile et chanter. Tu peux pas porter le voile et t'investir en politique. Tu peux pas porter le voile et faire partie d'un syndicat. Tu peux pas porter le voile et accompagner tes enfants en sortie scolaire. Tu peux pas porter le voile et faire un métier comme le métier de journaliste où tu t'exprimes sur une chaîne. Enfin, jusqu'où on va ? Des deux côtés, tu es nié, es déshumanisé.
On a eu l'exemple avec Manel.
On a eu l'exemple avec Manel. Regarde jusqu'où ça a été.
Bah, elle l'a retiré. Quand elle l'a retiré, elle s'est fait critiquer parce qu'elle l'a retiré.
Est-ce que tu te rends
compte ? Encore aujourd'hui, la pauvre.
Est-ce que tu te rends compte ? C'est-à-dire que non, mais cette nana-là, la pauvre, on est parti chercher des tweets qu'elle avait fait en 2002 avant Jésus-Christ. Mais enfin, c'est très grave. C'est très, très grave. On a le droit, les femmes musulmanes, a fortiori quand elles sont voilées, elles ont juste le droit de se taire et disparaître. Comme si le seul sujet lié au sexisme dans la société française, c'était le voile. Mais pardon, excusez-moi.
Toujours lié au physique, à l'apparence aussi.
Mais attends, mais moi, depuis que je suis petite, et je vous le demande autour de cette table, ce qui m'a rongée de l'intérieur, c'est les diktats. Il faut que tu fasses ce poids-là.
C'est ça.
Il faut que tu fasses cette taille-là. Il faut que ton corps, il ressemble à ça. Attention, il ne faut pas que tu vieillisses trop. Enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'on voit que tu sois vieille. Parce que plus tu prends de l'âge, et puis voilà... Les pressions qu'il y a sur nous en tant que femmes, elles sont, en vérité, celles qui sont les plus dures et celles qui sont qui nous ravagent de l'intérieur. C'est les pressions qui sont faites sur notre corps, en fait, les diktats de beauté qui sont complètement inatteignables, encore plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Donc, vous êtes féministe, mais battez-vous contre toutes les oppressions. Vous voulez sauver les femmes musulmanes. Allez regarder du côté de l'Amérique latine comment est-ce que les femmes, elles sont traitées. Votre sujet, c'est vraiment les violences faites aux femmes. Votre sujet, c'est vraiment si votre sujet, c'est vraiment ça, moi, je me tiendrai toujours à vos côtés. Regardez partout. Mais là, on voit bien, avec ces personnes-là, avec ce type de discours, ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est un discours raciste, aujourd'hui islamophobe, mais qui, cette islamophobie, elle vient d'un héritage, et cet héritage, il est colonial.
Ouais.
C'est vrai. Moi, je l'ai porté 2 ans. Et
le hijab.
Ouais, le hijab. Et j'ai tout un tas d'anecdotes, bien sûr, à raconter. Mais ouais, j'étais encore plus tiraillée que je le suis déjà. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est ça. C'est qu'on m'enlève certains... dans l'espace public, en plus, comme je suis quelqu'un de sociable. Comment, en fait, ne pas exister. Moi, c'est pas possible, en fait. J'y arrive pas. Et...
c'est dur ce que tu dis.
Et enfin, c'est fort.
Je n'arrive pas à exister.
On le retire leur existence.
Mais le pire, c'est que quand tu veux réexister, entre guillemets, c'est parce que tu as envie de te montrer. Alors ça aussi, ça a été dur, aussi dur de le mettre que de l'enlever. Je peux te dire que j'ai réfléchi longtemps avant. c'est dommage. Mais...
Siam, toi, tu t'exposes aussi sur les réseaux sociaux. Et cette transition, tu l'as faite finalement en direct avec les personnes qui te suivent. Quelles sont les critiques que tu as reçues ?
Alors bon, au niveau de ma communauté, aucune. Je pense que le fait que je suis assez directe et je monte les choses telles qu'elles sont, sans me justifier à chaque fois, ce qui fait que les gens n'ont pas trop le choix. Je ne me justifie jamais. Mais par contre, c'est plutôt les gens de mon entourage, ou les gens avec qui je vis. C'est normal après, parce qu'eux, ils ne comprennent pas trop pourquoi d'un coup tu le mets, puis après tu l'enlèves, etc. Mais sinon, de ma communauté, vraiment pas. Après, je n'ai pas non plus une immense communauté. Je sais qu'il y a des nanas, j'imagine quand tu as des millions et des millions d'abonnés, qu'il y en a dans l'eau qui viennent t'envoyer des messages. Non, j'ai eu franchement aucun message, aussi bien quand je l'ai mis aussi, parce que je ne l'avais pas, et quand je l'ai enlevé... Non plus, j'ai pas eu de message de haine. Mais ça a été dur quand même, en fait, pour moi, parce que c'est une décision lourde. Et puis, en plus aussi, parce qu'en tant qu'artiste, encore une fois, eh ben, c'est comme si qu'on m'acceptait pas comme artiste à cause du foulard aussi. Ça, c'est encore plus dans ces milieux-là. Ah, t'es artiste, t'es quoi ? C'est genre...
On te l'interdit.
Limite, ouais. Et comme si oui, c'était pas logique, finalement.
Ouais, tu vois. Bah parce que c'est bien connu. Et du coup, après, en fait, on te demande presque de justifier. Du coup, ouais, elle doit être artiste. Elle doit faire de la couture dans son... Voilà.
Tu fais des caftans.
Donc, voilà.
Dans leur truc, ça fait des robes de mariage, voilà.
En fait, c'est marrant parce que ça fait tellement écho. Et en même temps, j'ai eu un parcours peut-être un petit peu différent. Moi, je crois que je l'ai porté pendant 9 ans. Et j'ai vraiment été à un moment très visible avec. Mais genre, je pense que c'était presque exprès, quoi. D'exister et de faire porter ma voix. Et bon, dans un premier temps, déjà, quand tu dis les personnes s'étonnent que tu es artiste, vraiment, moi, des fois, j'allais en cours, je lisais mon cours avec le logo de mon université. Et les gens étaient étonnés de voir que j'étudie. Je lis en anglais, les gens sont étonnés que je lis en anglais. Je suis drôle, les gens sont étonnés que je sois drôle et que je ris. Ouais. Vraiment.
Non, mais c'est une catégorie.
J'ai un rapport, j'ai peut-être des complexes avec mon corps. Les gens sont étonnés que j'ai un corps. En fait, on te déshumanise. Tu n'existes que par ton voile. Et c'est ça aussi l'envers du décor. C'est que même quand tu existes, en étant voilé, donc ça veut dire que tu es reconnu par tes pairs, tu es reconnu par la société parce que tu as fait telle et telle chose, après on te voit presque plus que par ça.
Exactement.
Et moi, c'est ce qui m'a fait le retirer. J'étais, mais je ne suis pas qu'un voile, les gars. Ouais. Genre, vraiment. Et si à chaque fois, chaque chose que je fais.
Tu dois le justifier presque tout le temps, en fait.
Et sans même le justifier. Hein.
Ouais, mais...
Moi, je ne le justifiais pas, mais les gens l'interprétaient comme tel.
Voilà, mais on te fait tellement la réflexion qu'à la fin, tu te dis, faudrait que je me justifie, pour qu'on me laisse tranquille ou qu'on accepte ou qu'on ne me voit plus juste comme un voile. C'est très difficile. Pourtant, j'ai quand même une personnalité à ne pas trop me laisser faire. Quoi. Je suis pas non plus trop timide, j'ai tendance à discuter, mais c'est très, très dur de faire voir juste ta personnalité, en fait. Quand t'as le foulard.
Il reste en fait focus sur ce que tu portes
vraiment.
Sur la tête, alors que c'est.
C'est un truc de fou.
La façon dont tu t'habilles, c'est pas. Enfin, ça dit de toi, oui, mais ça dit pas de toi dans ta profondeur, dans tout ça. Ça dit de ce que tu aimes comme style, ça dit peut-être de ce que t'as envie de mettre en avant, ça dit si même on a envie, par exemple, de cacher. Je vois pas en fait où il est le problème. Ça, c'est que souvent on va entendre ça quand tu vas mettre trop de vêtements ou trop de couches. Oui, mais pourquoi? Attention, parce que si. Parce qu'en fait, c'est tous ces fantasmes qui vont se mettre dans sa tête en mode ah ouais, mais ça, c'est aussi une part médiatique où automatiquement, où, voilà, femme voilée est égale, c'est limite assigné à résidence. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui assignent ces femmes en fait à résidence et pas leur mari.
Mais au bout d'un moment, je pense qu'ils le savent. Et puis, il y a vraiment un truc où... Parce que c'est... Franchement, moi, j'ai eu beaucoup de...
C'est tout le temps.
Beaucoup d'anecdotes où j'ai bousculé beaucoup de personnes. C'est très drôle. Franchement, j'ai beaucoup ri. Des personnes qui disaient des trucs complètement absurdes. Et je voyais leur hypocrisie se fissurer comme ça devant mes yeux. Et c'était hyper drôle. Alors ouais, on veut te sauver. Meuf, je suis en train de t'expliquer un truc. Je te parle de l'histoire, je te parle de la colonisation, je te parle des scènes de dévoilement à Alger. Et tu continues à me dire que ça te pose un problème, en fait. Je te dis que tout va bien, que je suis une femme équilibrée, intelligente. Je sais pourquoi je le fais. Ça continue à te poser problème. C'est que tu t'en fous de savoir si je suis bien ou pas.
Ouais.
C'est que t'en as vraiment rien à faire de mes droits. Ce qui te dérange, c'est ce que je suis et que j'exprime ce que je suis et que ça correspond pas et ça colle pas avec ce que tu veux voir de moi, et ça s'arrête là. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé difficile aussi dans le fait de le retirer, c'est, et là, j'ai vraiment senti que la femme, et je reviens sur ce que tu dis tout à l'heure, ton corps, c'est un champ de bataille. T'es genre... comme moi, quand je portais le voile, je le portais pour des raisons spirituelles. J'étais pas un étendard. Mais certaines personnes me considéraient comme un étendard. Alors, t'as réussi parce que, parce que tu travailles dans un grand groupe avec un voile. Mais j'en ai rien à faire, moi. Je travaille parce que j'ai envie de travailler. Ouais. Je travaille pas avec mon voile parce que j'ai envie de montrer ou prouver quoi que ce soit. C'est ça. Et en fait, ces personnes-là sont hyper déçues quand tu le retires. Parce qu'ils ont l'impression de perdre une bataille. Mais t'es tout seul dans ta bataille. Alors, ouais. Je suis pas un pion. Et de l'autre côté, c'est pareil. Quand tu le retires, ils ont l'impression qu'ils ont gagné. Bon, une fois, il y a une femme, elle m'a dit, une responsable de mon master, « Ah, c'est bon, tu peux l'enlever. » J'ai dit, mais t'as rien compris, je veux l'enlever. Genre, j'ai toujours pu l'enlever. Et des fois, je disais ça quand je le portais. Oui, je dis, mais si je veux, là, tout de suite, je l'enlève. Et je vais pas me désintégrer. C'est pas une kryptonite. J'ai pas des serpents à la place des cheveux. Enfin, calmez-vous, les gars.
C'est pas Médusa. Ça va. Ouais, ouais.
Non, moi, c'est juste que j'ai pas envie.
La pire phrase que j'ai eue, c'était une maman devant l'école, à la sortie d'école de ma fille, quand je l'ai enlevée, qui m'a dit, ah, c'est bien, t'as enlevé ton foulard. Parce que c'est bien parce que la religion, c'est dans le cœur. Hein. Elle était contente, quoi.
J'en peux plus de cette phrase.
Ouais. Elle m'a dit ça.
Non, mais enfin, j'ai pas la même expérience que vous, donc je peux que, enfin, pour le coup, je peux que compatir, mais j'ai souvent été spectatrice et de toute façon. Quand t'habites en France, on te parle du voile 365 jours par an.
C'est plus important que le Covid et la faim et la guerre dans le monde.
Donc au final, ces discours-là, j'en suis abreuvée. Mais t'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Rizlène. En fait, ils ont, et Amina, c'est ce que tu disais aussi, ils décident de l'ignorer. C'est-à-dire qu'ils voient, ils constatent qu'il y a des femmes qui s'engagent, qui sont actives professionnellement, qui entreprennent. Mais ils décident d'ignorer ces femmes-là pour rester dans leur imaginaire dans lequel le destin d'une femme voilée, c'est faire des compotes et des purées maison pour leur vin marmots.
Et des gâteaux Polaïdes.
Ah oui, les fameux gâteaux
Polaïdes. Parce que quand on fait des gâteaux Polaïdes, là, tout de suite, notre existence sur Terre est justifiée en tant que femme
maghrébine. Et puis, ils te le rappellent. Ah, mais attendez, mais là, c'est la fin du ramadan. Vous faites des gâteaux, vous m'en apporterez? Ah ouais. Ouais, non. En fait, non. Genre, c'est le rendez-vous. Par contre, là, c'est intéressant. Mais par contre, tu les fais clairement chier toute la durée du ramadan parce que mais tu peux avaler ta salive. Non, je peux même ne pas respirer. On a un gène qui, pendant le ramadan, se développe. Tu ne peux pas ni... alors, même une goutte de pluie, ça arrive dans ta bouche. Oulala, c'est la fin du monde. Tu vois?
Ça va jusqu'à... Et en fait, moi, pour rebondir sur ce que vous dites, sur ce que tu dis... c'est même plus que ça. Aujourd'hui, on est perçus comme des dangers. Voilà, la dernière fois, j'avais vu une interview d'une fille qui s'appelle Lilia, qui était passée sur TPMP et puis sur une autre chaîne, je ne me souviens plus. On lui dit, mais vous vous rendez pas compte? Alors déjà, lui, c'est mieux qu'elle. Alors elle lui dit qu'elle est intelligente et qu'elle sait ce qu'elle fait. Mais lui, sur son grand cheval, lui dit, je sais par qui vous êtes manipulé, donc il y a ça. Et puis aussi, comprends que derrière, quand il dit ça, c'est que vous êtes bien mignonne, mais vous êtes le suppôt de l'islamisme dans le monde, etc. Et en fait, tout ça, ça fait que on invalide tout ce que tu dis. Donc dès que tu parles, c'est invalidé. Exact. Parce que soit t'es pas assez intelligente, soit t'es en danger. Toi aussi, t'es une islamiste. Toi aussi, t'es affiliée aux frères musulmans.
En fait, c'est ça. Il y a deux solutions. Soit t'es tellement stupide que t'es manipulée et pauvre de toi et attends, je vais venir te sauver, en tout cas je vais t'ouvrir les yeux, tu vois. Soit effectivement tu fais partie du problème, tu sais très bien ce que tu fais et tu fais de l'entrisme islamiste dans la société française à travers ton voile, tu vois. Et c'est comme ça que peu à peu tu vas désagréger la société de l'intérieur. Et moi, ce qui me fait rire, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos des pressions sur les femmes. Moi, quand je vois des femmes sur les plateaux télé qui sont complètement tirées à cause de leur lifting et qui sont juchées sur des talons de 10 cm, qui refusent d'apparaître sur un plateau télé sans être maquillées, quand je vois ces nanas, ou en tout cas maquillées de manière... de plus maquillées que les mecs qui font la même chose parce que tout le monde est maquillé sur le plateau télé, mais quand je vois ces nanas-là, que je juge pas du tout. Hein. Encore une fois, moi, j'en ai rien à faire qu'elle se refasse, qu'elle s'habille comme... J'en ai rien à faire. Mais quand je vois ces nanas-là, qui sont victimes, d'une certaine manière, de diktats qui sont imposés aux femmes, quand je les vois critiquer d'autres femmes parce qu'elles s'habillent d'une certaine façon, certes qui n'est pas la même que les hommes dans les communautés musulmanes, mais quand je les vois, je leur dis, mais on est entre femmes, vous vous dites féministe, ce que vous faites c'est au nom du féminisme, un peu d'indulgence. Est-ce que moi je vais chez vous pour savoir si chez vous c'est votre homme qui fait les courses, le ménage, qui s'occupe des gamins? Les femmes qui, enfin, tu sais, les foyers au sein desquels les tâches ménagères ne sont pas équitablement réparties, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir la nana et tu vas lui dire, espèce de gourde, n'as-tu pas honte? Mais oui, c'est toi qui fais 90% des tâches ménagères. Vraiment, c'est de l'antrisme, je sais pas comment appeler ça, des femmes de ménage. Enfin, je sais pas moi ce qu'ils vont nous inventer. Tu vois ce que je veux dire? On est féministe. Oui, un homme n'est pas voilé dans l'islam et une femme est voilée. Enfin, en tout cas, ça peut être comme ça. C'est une configuration qui existe. Oui, d'accord. Et donc après, c'est quoi la stratégie derrière? La stratégie, c'est de la montrer du doigt. La stratégie, c'est de faire en sorte qu'elle ne sorte plus de chez elle, qu'elle n'ait pas accès à l'éducation, qu'elle ne puisse pas...
Même faire du sport.
Qu'elle ne puisse pas faire du sport. C'est ça, la réponse. Mais occupe-toi de ta... De tes talons, ses enfants. De tes pieds déformés parce que tu sais... Et occupe-toi scolaire. De ton maquillage, occupe-toi de ça. Et résous tes propres contradictions avant de... Tu vois ce que je veux dire? Et je dis ça encore une fois, et j'en ai rien à faire. Je mets des talons, je me maquille. Enfin, voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est...
Je mange du saucisson.
Non, non. mais ça aurait pu. Mais le sujet, c'est laissez-nous tranquilles.
Ouais, mais en fait, ils veulent juste... C'est ce qu'il y a derrière, c'est l'invisibilisation, c'est tout. Ils veulent juste pas te voir, en fait. C'est leur sujet. Parce que...
Ou te voir comme ils ont envie de te voir, te façonner, te façonner, parce que tu peux pas être heureux si tu ne fais pas comme eux.
De ton identité.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai vraiment remarqué quand je cherchais du taf. Moi, quand là, je vais dans des espaces de coworking, la majorité, la totalité des personnes qui travaillent, qui sont au service, qui font la vaisselle, qui ramassent les poubelles, c'est des personnes racisées, dont des femmes qui portent un voile, une sorte de turban, on les accepte.
Oui, parce qu'ils sont dans ces métiers-là.
Voilà.
Parce qu'ils ne sont pas visibles. C'est les métiers invisibles.
Mais quand tu es assis avec eux à la table de réunion, là, ça pose problème.
Ou que tu portes des voix.
Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, quand tu fais ce constat, tu comprends qu'on s'en fout de savoir si la personne... Tu vois, la fille qui porte un voile ou qui porte un turban et qui s'occupe... de faire la plonge ou qui est dame de service à la cantine, tout le monde s'en fout de ce qui se passe dans son foyer. Et pourtant, peut-être qu'elle est hyper épanouie et peut-être pas. Mais tout le monde s'en fout. Mais par contre, quand tu commences à vouloir être un peu plus visible, à exister, là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes... Pourquoi? Qu'est-ce qui...
On va aller chercher les dossiers.
Bah, attends, après, pour... un petit peu, redonner un petit peu de... Moi, j'aime bien donner un petit peu de positivité dans ce qu'on dit, parce que mon but aussi, c'est pas de me complaire dans la plainte, même si, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est victime de tout ça. C'est aussi ça, c'est pour ça aussi que moi, ça me fait plaisir, et j'espère qu'on en refera, de faire des rencontres comme ça avec des personnes comme vous, parce que voilà, c'est important que toi, tu sois écrivaine, journaliste, critique, que c'est important que toi, tu sois artiste, peintre, c'est important que toi, tu sois danseuse, c'est important que toi, tu sois journaliste. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est là. On occupe la place, et de plus en plus quand même.
Bien sûr.
On pourra dire ce qu'on veut, de plus en plus quand même.
Parce qu'on s'assume.
Exactement.
Voilà, tout simplement.
Parce qu'on s'assume, et puis on a grandi ici, on a fait des études, nous aussi, on est qualifiés maintenant, on n'est pas des... Voilà.
Mais c'est justement ça le problème. C'est qu'on redéfinit aujourd'hui ce que ça signifie que d'être citoyen français. Et on est la génération qui le redéfinit. Et ça ne plaît pas.
Ouais.
Parce qu'on a décidé d'être français selon nos propres termes et qu'on était en dehors de ces carcans, qu'on pouvait être français et musulman et être à l'aise avec, avec le religieux, le fait religieux, qu'on pouvait être... voilà, exactement. Donc on arrive à concilier des choses et on montre que c'est possible.
Exactement.
Et c'est justement parce qu'on, moi je vais te dire, je pense que c'est justement parce qu'on est intégré. C'est depuis qu'on est intégré qu'on pose problème.
Exactement.
Ouais. Parce que si on l'était pas, ça serait pas.
Bah parce que si on l'était pas, il y a pas de problème en fait. Voilà, quand nos grands-parents, moi mes grands-parents, ils sont arrivés, ils savaient pas parler un mot de français, ben voilà, on leur disait sale bougnoule, ils fermaient leur bouche et c'est tout. Mais aujourd'hui, nous, on sait lire, on sait écrire, on s'exprime, on met une voix sur ce qu'on pense, et c'est là que ça pose question.
Ouais. Ouais. Voilà. Je dirais plus que lire et écrire, on est cultivé. Ouais. On a la culture. On a la culture française, occidentale, et en plus, on se renseigne énormément sur toutes nos cultures, ce que eux ne font pas. Donc, on a un grand plus en réalité.
Parfait. Je t'en prie, Rizline.
Ouais. Et ça fait des femmes brillantes.
Mais justement, c'est une super conclusion. On pourrait rester des heures encore, hein. Je pense qu'on va se reprogrammer un podcast très, très prochainement. Je vous dis juste que, du coup, ça va parler à peut-être trouver un nouveau format, là. On a trouvé... voilà.
Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une alchimie, un truc.
Très grande alchimie. Passé. Donc, vous allez très vite entendre parler, du coup, à nouveau de Camilla, Siam, Rizlen et Sarah. Ça a été un grand plaisir de vous avoir, de partager... Et surtout, tout le cheminement de la discussion. Et encore, on a tellement de choses à dire.
Ouais. Merci à toi, Amina. Et merci à toutes ces belles femmes inspirantes pour leur discours éclairé et leurs mots justes.
En tout cas, on a passé une excellente journée.
Ouais.
Et ce, depuis 10h ce matin.
Ouais.
J'ai bien fait de monter sur Paris, moi.
Ouais. on va finir peut-être, si vous voulez, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour certaines. Si y en a qui en ont ou d'autres non, voilà, c'est celle qui veut peut-être qu'on les suive sur les réseaux sociaux.
Moi, Siam Kouquet, vous me trouvez sous le nom Siam K Art sur Instagram la plus grande partie du temps.
Voilà.
Si, on peut me retrouver. On peut me retrouver sur Instagram Riz Art, donc Riz GHIZ.art.
De toute façon, je vous mettrai toutes les infos aussi dans la petite description. Voilà.
On va faire en sorte que Camilla soit visible.
Oui, on va lui créer un compte Instagram. On va s'occuper de ça. Quincy, attention.
C'est vous qui le... Ouais, voilà, je vous laisserai la gestion et la responsabilité, du coup.
Moi, vous me retrouvez sur le compte Instagram et la chaîne YouTube d'Arabic Nova.
Voilà, donc je vous mettrai toutes les infos.
Ouais. Je vais te le dire, j'adore ton accent à chaque fois. Comment tu le dis ?
Merci les filles, merci de nous avoir entendues. Puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Ça va parler. Ça va parler, ça va parler, ça va parler.